Europe 1, radio officielle de Roland Garros.
Avec vous, Philippe Landel.
Comme tous les jours, 19h41, c'est l'heure. C'est la dernière fois en 2019. C'est l'heure de service Pioline. On va prendre la direction de la porte d'Auteuil où on retrouve Christophe Lamarre. Bonsoir, Christophe.
Bonsoir, Philippe. Bonsoir,
et bonsoir
à tous.
Bonsoir, Cédric Pioline.
Bonsoir, Philippe.
Alors, je ne vais pas tarder. Je ne vais pas monopoliser le micro. Vous allez commencer, bien sûr, avec la victoire de Rafael Nadal.
Oui, victoire de Rafael Nadal. On ne va pas dire victoire facile, même si sur le papier, elle semble quand même impressionnante. 4 manches, 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. Un petit peu plus de 3 heures pour un Rafael Nadal, Cédric, qui, au passage, quand même, empoche son 12e titre à Roland-Garros. C'est juste...
Irréel.
Hein, c'est ça ?
Irréel, je crois que c'est le mot. 12 titres ici, c'est un exploit unique. Dans l'histoire du jeu, puisque, et puis il monte, on en discutait juste avant, à 18 Grand Chelem, à deux longueurs donc, de Roger Federer. C'est assez impressionnant. Et puis finalement, Rafael Nadal qui n'a pas été vraiment, une nouvelle fois, j'ai envie de dire, challengé pendant cette quinzaine, même si il a quand même perdu 2-7 en route. Un aujourd'hui en finale contre Dominic Thiem et un contre David Goffin.
Et on va justement peut-être, Philippe, écouter.
Ah bah oui,
Rafael
j'allais justement
Nadal,
vous le dire. Allez-y, c'était juste
un petit
après.
Sous le pied, ça tombe bien, on est sur la terre battue.
Vous avez bien fait. Juste après son 12e sacre, Nadal.
C'est vraiment incroyable. Je ne peux expliquer. C'est vraiment incroyable. C'est un moment très, très spécial pour moi. Je vous dis merci beaucoup à tout le monde. Merci. Je vous dis merci beaucoup à tout le monde qui fait de ce tournoi le meilleur tournoi du monde. Merci beaucoup. J'espère de retrouver la prochaine. Merci beaucoup.
Il dit ça à tous les tournois, que c'est le meilleur tournoi du monde, ou vraiment il le pense de Roland-Garros?
Il y a Cédric qui sourit.
Non, je crois que vraiment ici, c'est spécial. C'est ce qui a fait c'est un peu sa marque de fabrique. Jouer ici sur ce cours central, Philippe Châtrier, Porte d'Auteuil, c'est là où il s'est révélé, je dirais, au monde du tennis. Et puis petit à petit, d'ailleurs, il a dépassé largement le monde du tennis pour devenir une icône, hein, un peu comme Federer. Donc oui, il le pense sincèrement. Après, c'est vrai que peut-être ça, d'autres endroits, on va dire que ça fait partie d'un discours un petit peu préétabli, préfabriqué.
Oui, moi je suis
dit, Cédric, c'est vrai que...
Pardonnez-moi, non, je veux dire que j'étais déjà allé voir des concerts, des groupes, et d'une ville à l'autre, c'était toujours leur ville préférée. Donc je me suis dit, finalement, ils ne le pensent pas. Mais quand même,
Nadal,
Nadal et la terre battue, c'est quand même une grande histoire d'amour. Il ne trouvera pas ça à Flushing Meadows ou à Wimbledon, la terre battue.
Donc pour le coup, évident, et c'est là où je voulais...
Allez-y.
Pardon, Philippe. C'est évident, et d'ailleurs, Cédric, il est évident que Rafael Nadal a fait de Roland-Garros. Alors c'est vrai que c'est un peu cliché, son jardin, mais il a une relation particulière avec ce tournoi. D'abord, parce qu'il y fête son anniversaire,
oui.
C'est quand même pas neutre. Mais c'est vrai qu'il, non, mais il a un véritable amour pour ce tournoi. On gagne pas 12 fois Roland Garros par hasard.
Non, c'est un grand champion. C'est un des puisqu'il n'est pas le seul. Hein. Il y en a d'autres qui sont en activité, mais il est un champion parmi les champions. C'est assez exceptionnel d'arriver à trouver à nouveau chaque année la motivation pour remettre le titre en jeu, être à nouveau motivé. Je ne sais pas où est-ce qu'il trouve cette énergie. On le voit sur le court, qui même lorsqu'il mène largement, il rate une balle, il est agacé, il s'en veut, il n'accepte pas. Donc c'est presque inhumain, moi j'ai envie de dire. Lorsqu'on sait par exemple que à chaque fois qu'il a fait un match rapide, il va jouer 2 heures derrière, donc c'est incroyable.
J'ai une question pour vous, il y a évidemment la volonté, mais ensuite il faut que la musculature, le physique suivent. Il a quel âge et vous le voyez jouer à ce niveau pendant combien de temps encore?
Ben,
il a eu 33 ans,
donc ce n'est plus un jeune joueur. Il faut dire que ça fait un moment maintenant, et je ne pourrais pas d'ailleurs savoir depuis combien de temps exactement, mais qu'il ne fait pas une saison complète, parce qu'à chaque fois, il a quelque chose qui souffre dans son organisme, et c'est souvent chez lui les genoux. Mais comme sur terre battue, il a une supériorité par rapport au reste du circuit. ça ne se voit pas, il finit toujours dans les 2-3 premiers. Et combien de temps? Alors ça, c'est un mystère quand on voit que Federer, lui, va fêter ses 38 ans au mois d'août et il est toujours compétitif. Je dirais qu'il a bien 2-3 saisons dans les jambes pour au plus haut niveau, en tout cas.
Vous savez, Philippe, c'est une question que l'on a posée à Guy Forget, le directeur du tournoi. On lui a dit, bon, effectivement, il y a quand même un côté un peu un jour sans fin avec Raphaël Nadal, à Roland-Garros, j'entends. Et on lui a dit, et c'est la même question que vous avez posée à Cédric, mais combien de temps peut-il jouer? Et surtout, est-ce qu'il peut encore aller chercher un grand chelem à Roland-Garros? Écoutez la réponse de Guy Forget, elle est claire.
Je dirais que s'il est épargné par les blessures, parce que c'est quelque chose qu'il faut prendre en ligne de compte, hein, lorsqu'on dépasse les 30 ans, je crois qu'il sera le favori encore l'année prochaine. Et peut-être qu'un Dominic Thiem ou un Novak Djokovic, en pleine possession de ses moyens, vont pouvoir le faire trébucher. Il a une telle maîtrise de cette surface, une telle capacité à jouer le bon coup au bon moment, à donner très peu de points, à glisser toujours en coupant les trajectoires. Quand on le voit évoluer comme ça, franchement, une nouvelle fois, c'est prodigieux ce qu'il arrive à faire. Donc, on ne va pas dire 15 parce que c'est tellement ridicule, mais pourquoi pas 13?
Impressionnant.
Alors, pourquoi pas 13? Ouais, c'est impressionnant, hein?
Ouais. Alors, Nadal, les garçons, c'est fait. Journée marquée également par la victoire en double de la Française Kristina Mladenovic avec la Hongroise Timea Babos. Mladenovic qui va devenir demain la nouvelle numéro 1 mondiale en double.
Oui, effectivement, et c'est pas quelque chose d'anodin parce qu'elle en est à son troisième grand chelem. Alors, elle avait déjà gagné Roland-Garros en 2016, si je ne m'abuse, avec Caroline Garcia. Elle a déjà gagné un autre tournoi du grand chelem, et là, il y a Cédric qui me regarde avec ses grands yeux. Si jamais je dis une erreur, je ne vous raconte pas le mauvais quart d'heure que je vais passer derrière.
On s'en fout, c'est le tournoi est fini.
En 2018, oui, c'est vrai, c'est pas très grave. Ouais. Je pourrais rentrer en béquille. Mais c'est vrai qu'elle va surtout, Cédric, il y a quelque chose de... Alors, c'est plus que du symbolique. Elle va être numéro un mondial. Est-ce qu'on peut dire que si on met de côté son tournoi en simple, est-ce que cette victoire en double, ça sauve, entre guillemets, sa quinzaine?
Oui, ça, d'une certaine manière.
Ça adoucit.
D'une certaine manière, je pense qu'elle se considère avant tout comme une joueuse de simple. Maintenant,
elle l'a dit, c'est vrai.
C'est un accomplissement, hein, de gagner un grand chelem et puis surtout d'être en haut de la montagne avec cette place de numéro un. Donc elle pourra se dire, voilà, c'est fait, c'est inscrit dans le marbre, ça sera sur ma carte de visite, dans mon palmarès. Donc voilà, mais je crois qu'il faut qu'elle qu'elle s'en serve en tout cas pour le simple. Et c'est arrivé souvent, hein, d'ailleurs, que des joueurs et des joueuses se servent du double et des bonnes de cette discipline pour améliorer leur jeu de simple.
Et notamment, on dit souvent d'ailleurs que le double permet d'améliorer son jeu à la volée. Alors elle va quand même être numéro un mondial en double demain, lorsque la WTA, bien sûr, publiera son classement, puisque vous savez que l'ATP comme la WTA publient leur classement hebdomadaire le lundi. Mmh. Et elle sera donc numéro un mondial. Et on lui a posé la question à Kristina Mladenovic, être numéro un mondial en double, qu'est-ce que cela vous fait, Kristina Mladenovic?
C'est exceptionnel, d'autant plus que... Enfin, voilà, quand on est athlète et à un moment donné, quand on vit de sa passion, on n'a qu'une seule envie, c'est se surpasser, faire... partager des émotions fortes avec son équipe, avec le public, avec les fans et entre guillemets aussi écrire l'histoire parce que c'est ce qui reste. Et quand on est à Roland et que je sais que quelque part dans les archives, ça restera que, si je ne me trompe pas, je dois être la deuxième Française de l'histoire à être numéro une mondiale en double. Et en plus, ça se concrétise au bout d'un titre de Grand Chelem à Roland-Garros, c'est juste fou, c'est juste dingue de se dire que voilà, une fois que je raccrocherai les raquettes, il y aura ça de plus à mon palmarès. C'est très prestigieux. Et quand j'ai reçu le trophée hier de numéro 1 mondial et voir qui a été numéro 1 mondial avant moi, c'est, oui, ça donne la chair de poule de voir son nom associé à toutes ces championnes.
Kristina Mladenovic au micro Europe 1. Juste une petite question aux spécialistes que vous êtes. Comment se fait-il qu'on peut être numéro 1 mondial en double individuellement? Pourquoi c'est pas une paire? Pourquoi c'est pas une doublette qui est récompensée?
Et c'est Cédric qui va répondre.
Alors, tout simplement parce que en fait les points qui sont attribués à chaque tournoi, donc sont attribués, par exemple là il y a 2000 points pour chaque joueuse qui gagne, donc à l'équipe, donc ça fait 4000 en fait.
Ouais.
Et en fait, si par exemple Kristina la semaine prochaine joue avec une autre joueuse,
d'accord,
elle va continuer à améliorer son total individuel. Et c'est pour ça qu'il arrive. Il y a eu les frères Bryan, par exemple, qui, à un moment, ont été, n'avaient pas le même classement parce qu'un des deux a joué un tournoi de plus et a fait quelques points supplémentaires.
D'accord. Contrairement à la Formule 1, contrairement à la Formule 1, on a le droit de changer d'écurie en cours de saison. Et pour finir, les garçons, qu'est-ce qu'on doit retenir ? Que retenez-vous de cette édition ? Quelles sont les images fortes de ce tournoi ? Et plus généralement, est-ce que vous estimez que le cru 2019 de Roland-Garros est un bon cru ?
Alors, je me jette à l'eau le premier. Merci pour la bouée, Cédric, c'est sympa. Alors, l'image forte pour moi, c'est quand même, et c'est ce qui fait aussi sans doute que ce tournoi est réussi, c'est la venue de Roger Federer. Ouais. Ça a été quelque chose d'exceptionnel. Son niveau de jeu, je ne m'attendais pas à ce qu'il pratique un tel niveau de tennis, même si on peut redire sur les adversaires qui lui ont été opposés, encore que Stan Wawrinka en quart, c'était quand même quelque chose. Et je retiendrai aussi cette image d'ailleurs de Roger Federer battu en demi-finale par Rafael Nadal, quittant le central, et cette standing ovation et les Roger qui descendaient des tribunes. Voilà, ça, je trouve que c'est une image forte et je trouve que globalement, c'est un tournoi qui a été réussi. Et d'autant plus réussi, je trouve, que du côté féminin, il y a cette jeune Ashleigh Barty, 23 ans, qui a remporté le simple dames en pratiquant un tennis que j'ai trouvé franchement merveilleux, très beau à voir, fait en variation de rythme, les amortis, les montées au filet. Enfin voilà, j'ai trouvé ça assez séduisant. Cédric, vous, quelle image garderez-vous de ce Roland-Garros, et est-ce que pour vous c'est une édition réussie ?
Bah écoutez, vous avez bien fait de vous jeter en premier parce que c'est à peu près, c'est un petit peu près à peu de choses près la même chose. C'est vrai que Federer, ça a été un moment fort, ça a créé du frisson, je dirais, dans les gradins, dans les allées, de voir son niveau de jeu, de le revoir à Paris, de voir qu'à pratiquement 38 ans, il est en demi-finale ici. Il n'a pas fermé la porte à ce que ça soit qu'il revienne, tout simplement. Donc, c'est évidemment, chaque année qui passe est un peu plus difficile parce que le jeu sur terre battue est exigeant. Et puis, chez les filles, je dirais que, bon, il y a eu un tableau très ouvert, comme on l'avait dit au tout début du tournoi.
Vous l'aviez dit au début d'ailleurs. Voilà. Bien malin celui qui pourra donner le nom du vainqueur.
Et pour moi, je pense que c'est peut-être. Oui, alors Barty qui a gagné, forcément ça parle, mais la jeune américaine, Anisimova, qui, voilà, 17 ans et quelques. Franchement, elle a tout pour devenir une future grande. Et je pense qu'il y avait la place déjà cette année pour qu'elle passe. Elle a été sûrement un peu rattrapée par l'enjeu, la pression, d'un coup peut-être de réaliser ce qui était en train de se passer. Mais on devrait la revoir et ici à Paris et dans bien, bien d'autres endroits dans le monde parce que je pense qu'elle va jouer très, très bien pendant de nombreuses années, cette jeune fille.
Une image. Voilà.
D'autant qu'il y a
une image que, oui, vous devriez retenir, que vous allez retenir tous les deux, en dehors du match, peut-être une toute petite séquence, un clin d'œil ou quelque chose comme ça, qui vous a vraiment séduit.
Centre de presse, c'est là où se passent les interviews avec les joueurs à l'issue des matchs. Et en ce qui me concerne, je sors donc du centre de presse et là, c'est Cannes. C'est-à-dire qu'il y a du monde partout. Ouais. Et je me dis, mais évidemment, un peu bravache, je dis, mais vous attendez qui ? Il dit Roger ! Voilà, c'est le monde, mais une foule, la même d'ailleurs, presque la même pour Rafael Nadal, il faut le préciser. Mais voilà, c'est cette image-là, c'est l'image moi qui me vient quand je sors de la première interview de Roger après son premier match, cette foule devant le centre de presse, mais on ne pouvait pas faire un centimètre, c'était pas possible.
Magnifique.
C'était pas possible. Et vu en plus mon gabarit de déménageur, je vous dis que c'était compliqué pour rejoindre la tribune de presse.
Mais non, vous faufilez, au contraire.
Oui, ouais. Bah, c'est vrai que c'est pas mal aussi, je dribble. Oui, j'ai un centre de gravité très bas. Cédric, vous, ici, il y a une image que vous retirez
Une image, je dirais que c'est quand même. Alors, c'est peut-être pas forcément physique, c'est peut-être justement la transformation du stade, ce nouvel écrin, ce court central qui n'est pas fini, le toit qui va être posé pour l'édition de l'année prochaine, est vraiment un tournoi qui monte en grade et qui est quelque part aussi en compétition. On parle toujours de la compétition sur le court entre les joueurs et les joueuses, mais les tournois du Grand Chelem qui sont eux-mêmes en compétition les uns avec les autres. Et Roland Garros qui est dans une magnifique évolution. Voilà, la fédération et la direction du tournoi font quand même un gros travail de fond et c'est bien de le souligner.
Voilà, et puis moi, Mathieu notamment, hein, qui est magnifique.
Et puis moi,
Philippe,
personnellement,
c'est quoi votre image, vous ?
Alors je vais vous le dire, moi je garde l'image de la balle de match, de la finale, racontée en direct tout à l'heure.
dans le journal des sports par Corinne Boulou. On aurait voulu faire exprès, on n'y serait jamais arrivé, on aurait vu ça dans un film, on aurait dit « Mais non, c'est pas possible, ça peut pas tomber, il peut pas servir pour le match » pendant le journal des sports sur notre premier titre. Eh bien si, il l'a fait. Merci à Nadal, merci à vous tous les deux, merci à Cédric, merci à Christophe, merci à tout le service des sports, également à Corinne Boulou, de nous avoir fait vivre pendant 2 semaines ce tournoi sur Europe 1, la radio officielle de Roland-Garros. Europe 1.